Bienvenue sur 2024, le nouveau podcast de championne du monde qui part à la rencontre d'une athlète qui a toutes ses chances de médaille pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. 20 minutes de podcast tous les 24 du mois pour découvrir vos nouvelles sportives préférées dans des sports un peu moins médiatisés mais que vous allez adorer. Parce que tout le monde mérite la lumière et que vous serez trop fiers de les connaître. Dites bonjour à vos espoirs pour Paris 2024. Mon date du jour, c'est Léonice Huette, 23 ans et championne de France de badminton. En une phrase, c'est un caractère de feu, solide dans son corps et dans sa tête, qui met tout en œuvre pour marquer son sport de son empreinte avec sa raquette. Léonice, trop contente d'être avec toi aujourd'hui. Ça faisait un petit bout de temps qu'on essayait de se capter entre tous tes tournois et on y arrive enfin.
Et c'est vrai, c'était un petit peu épuisant de trouver un temps à t'accorder, parce que c'est vrai qu'entre toutes les compétitions que j'avais récemment, trouver un temps, c'était un petit peu l'aiguille dans une botte de foin. Donc, je suis très contente d'être là.
Bah moi aussi, et c'est vrai que tu le dis, c'est normal, t'es en compétition en ce moment puisque tu essayes de te qualifier pour un petit truc qui va avoir lieu dans 4 mois et qui s'appelle les Jeux Olympiques et qui sont un peu à Paris aussi.
Exactement ça.
donc c'est pour la bonne cause et écoute, on y reviendra probablement après, mais en tout cas, t'es en plein dedans en ce moment. Léonice, alors première chose, avant toute chose, tu pratiques le badminton.
C'est ça.
Est-ce que, dans un premier temps, alors je pense que tout le monde voit ce qu'est le badminton, hein, on ne parle pas d'une discipline obscure que personne ne connaît, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu avec tes mots ce qu'est le badminton en fait ?
Ouais, pas de souci. Du coup, le bad, il y a vraiment 5 disciplines. Moi, je fais du simple dame, donc il y a le simple homme également, le double dame, le double homme et le mixte. Donc vraiment, pour parler du simple dame, enfin même du badminton en général, ça se gagne en 2 sets de 21 points. Si ce n'est troisième, si évidemment il y a 1-1.
Bien sûr.
En 21, et donc après c'est 2 points d'écart pour marquer la fin de set, pardon. Mm-hmm. Et jusqu'à 30 si jamais, donc 29-29 et le 30e point, la personne gagne. Donc voilà, je pratique le simple dame et c'est plutôt très, très physique. Hein. On n'a pas, comment dirais-je, je pense que dans la majorité, la majorité des gens, pardon, sont plutôt... Je pense que le bad, c'est très simple, pas très cardio, etc. Mais c'est une discipline qui est très physique et qui est aussi qui demande matière à réflexion parce qu'on est face à un adversaire. Mmh. Et donc, chacun a une tactique à mettre en place.
Tout à fait. Et c'est bien de le préciser parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, en fait, on a tous fait du bad à l'école.
Oui.
Donc,
clairement.
C'est vraiment la discipline que tu passes au bac ou ce genre de choses. Et je pense que pour beaucoup, c'est associé à des mauvais souvenirs.
c'est possible.
mais c'est une discipline qui est hyper physique. Et ouais. Le niveau que vous aviez à l'école, ce n'est pas le niveau que tu as en l'occurrence.
Oh, j'espère pas. J'espère avoir dépassé ça depuis longtemps, mais oui.
Question forcément, comment t'as commencé justement le badminton ?
Alors le bad, c'est pas venu tout de suite, c'est-à-dire que je faisais du volley quand j'étais vraiment jeune, okay. De mes 6 à 8 ans, donc le côté collectif, ça m'avait bien plu, etc. Mais c'est vrai que j'avais un caractère vraiment très prononcé pour mon jeune âge, je me laissais vraiment pas marcher dessus, et donc c'est vrai que le côté collectif au départ m'allait très bien, et ensuite quand j'ai commencé à vouloir faire légèrement de compétition, etc., je m'y retrouvais pas du tout.
Okay.
Et donc,
tu t'embrouillais avec les autres ?
Ouais, non, m'embrouiller, non, ça c'est vraiment trop. Mais je m'y retrouvais pas parce qu'on commençait un peu à perdre, mais c'était des matchs de loisirs. Mais moi, j'étais tellement, je voulais gagner. Donc j'ai fini par abandonner le volley. Et ensuite, en fait, j'ai grandi à la campagne. Donc j'avais des chevaux chez moi. J'ai toujours adoré ça. Et donc j'ai fait de l'équitation pendant 1 an, je pense. Mais pareil, j'appréciais énormément ça. Mais le côté physique, il était un peu en reste selon moi, et donc je cherchais un sport. Et donc c'était ma meilleure amie de l'époque, donc j'avais 10 ans, qui m'avait dit « Bah écoute, moi je fais du bad le week-end, si tu veux, je peux t'inviter pour que tu testes ». Et donc j'y suis allée, j'ai accroché, et depuis je ne me suis pas arrêtée au final. Voilà.
Tu l'as fait tout de suite pour la compétition, parce qu'on sent, tu dis « J'aimais pas perdre, j'avais envie de me dépenser aussi l'aspect physique ». Je crois comprendre est hyper important.
Ouais. La compétition, elle est venue assez rapidement. Ouais. C'est vrai que de toute façon le bad, je connaissais vraiment pas du tout. Donc en fait, c'était un petit peu le bad au final du collège. Mmh. On arrive, on n'est pas du tout sûr de ses appuis, on n'a aucune technique, mais malgré tout ça, c'était vraiment le côté physique. Je me souviens de mes premières séances, bah, le lendemain matin, je pouvais plus me lever tellement j'avais de courbatures, quoi, tellement c'était intense. Et donc ensuite, ça m'a beaucoup plu, ce côté physique, évidemment. Mais encore une fois, tu avais le côté tactique. Si tu as envie de progresser, de faire la compétition comme je le souhaitais avant, ça m'a énormément plu, ça m'a boosté pour ensuite faire de la compétition. Et c'est vrai que c'est venu assez rapidement. Le côté loisir ne me procurait pas assez de sensations. Donc c'est pour ça que la compétition, je voulais en faire tout de suite.
On sent les, ouais. les âmes compétitrices. Et...
clairement.
qui aiment se battre.
Ah oui.
Est-ce que tu as des spécificités de jeu aussi? Est-ce que tu as un jeu particulier? Quelles sont tes qualités dans le bad?
Je pense être quelqu'un d'assez explosive, c'est-à-dire que je mets beaucoup d'intensité dans les premiers coups. Je pense être assez attaquante aussi, beaucoup de smash, beaucoup de slice, et surtout ma vitesse de déplacement. Je pense que c'est ce qui fait ma force. Ouais. Après, il y a aussi le côté mental, évidemment, mais mm-hmm. en tout cas du côté physique, ce serait plutôt côté physique et technique, ce serait plutôt ces choses-là. Ouais.
Et d'un point de vue mental?
Point de vue mental, c'est une guerrière, quoi. Enfin, je suis là pour gagner et pour gagner le plus rapidement possible aussi. Parce qu'évidemment, okay. un match, ça peut jouer en 3-7, mais l'idéal, c'est de le gagner en 2. Donc, c'est le plus rapidement possible.
Comment on développe son propre style? C'est vrai que c'est intéressant, c'est pas évident de trouver quelque chose qui nous différencie ouais. des autres et ouais. qui fait notre particularité.
Je pense qu'il faut... Il faut prendre un carnet et noter en fait nos qualités, nos points forts. Les miens, c'était plutôt le côté physique. Donc justement, le côté physique compensait, en tout cas quand j'étais plus jeune, le manque de technicité. Donc maintenant, c'est un peu, c'est à peu près équivalent. Mais c'est vrai que donc ma force physique faisait que mon smash allait être beaucoup plus percutant. Ouais. Donc mes attaques allaient être peut-être plus précise, etc. Et donc, j'avais un meilleur enchaînement. Donc, c'est vraiment, il faut identifier nos qualités, nos forces, pour ensuite établir des séquences de jeu, etc. Mm-hmm. Et aussi modifier nos tactiques.
Ok. Pour revenir globalement aussi sur ta carrière, tu as 23 ans, donc tu es encore hyper ouais. jeune. Comment tu qualifierais ton parcours, ta carrière dans le bad jusqu'à présent?
J'ai l'impression d'être dans Astérix et Cléopâtre, là. J'allais dire c'est des rencontres. C'est des rencontres, mais en même temps, ça paraît tellement, simple et bateau ce que je dis, mais c'est la réalité au final. On m'a donné une chance de rentrer au pôle. C'est ma mère aussi qui m'avait poussée à l'époque en me disant que j'allais sûrement regretter de ne pas aller dans cette voie du sport. Donc ça peut paraître très, très bateau, mais je pense que c'est vraiment des rencontres. Beaucoup de gens positifs. Qui m'ont amené au niveau que j'ai actuellement, mais si je devais définir ma carrière, je pense que c'est un mélange d'émotions, de rencontres, et c'est pas fini pour le moment, ça c'est une certitude, mais c'est aussi savoir saisir les opportunités quand on en a, réaliser la chance qu'on a aussi de faire du sport de haut niveau et se donner les moyens aussi. C'est un peu un ensemble de tout ça, ouais.
Et concrètement, après, dans les résultats, parce qu'on n'a même pas parlé de tes résultats, mais bon, ce qui est quand même intéressant de savoir, tu as fait championne de France il y a 6 ans.
Oui.
En 2018, ouais. T'étais hyper jeune à ce moment-là, ce qui a mis un peu les spotlights aussi sur toi.
Oui,
hein.
C'est vrai.
Puis, tu refais championne de France cette année.
Oui.
Donc, tu n'as pas été championne de France pendant 6 ans.
C'est ça.
Là, 2014, pas du tout, 2024, de nouveau championne de France. Tu as eu également des bons résultats sur certains ouais. tournois. Comment justement ces résultats-là, tu les appréhendes? Quels sont tes objectifs aussi? Parce que c'est vrai que dans le badminton, on n'en parlait pas, c'est un peu similaire, plus ou moins, on va dire, du tennis de table, où il y a une grosse domination asiatique dans ce sport-là. C'est compliqué d'exister, c'est compliqué aussi d'augmenter au ranking parce qu'il y a énormément de concurrence. Comment ça, tu le gères?
Je le gère. Je pense que j'arrive mieux. Enfin, je le gère. Je pense que j'arrive mieux à le gérer parce que ça fait maintenant des mois, des années que je suis suivie par une préparatrice mentale et par une psychologue aussi également. Évidemment qu'il y a le côté sportif, le bad, mais je pense que si on se sent pas bien dans sa tête. Bah, ça fonctionne pas, tout simplement. Mmh. C'est le cerveau, il a aussi besoin d'être musclé. C'est pas parce qu'on sait soulever 200 kilos, soulever de terre ou des choses comme ça, que ça fait gagner des matchs. Je pense que la partie mentale, elle est extrêmement présente. Le fait d'avoir confiance en soi, mais même c'est même au-delà de ça, c'est des mécanismes, des schémas, enfin en tout cas pour ma part, hein, qui découlent de l'enfance. Donc c'est vrai qu'il y a tout un travail. On déconstruit en fait énormément de choses durant ces séances-là. Et donc ça me permet de relativiser parfois, mais surtout d'établir comment dirais-je, de nouveaux objectifs. Évidemment qu'il y a les Jeux cette année, mais au-delà de ça, ou même avant, il y a énormément de choses, que ce soit dans les entraînements, dans les compétitions. Il faut vraiment séparer aussi ça. Évidemment qu'il y a des points de concordance, etc., mais les choses sont plutôt distinctes dans ce que je travaille avec cette préparatrice mentale-là. Donc, c'est vraiment un plus pour moi. Donc, il y a toute la partie mentale. Comment est-ce que j'aborde la suite? De toute façon, je suis un peu dans la place du chasseur en ce moment. Donc, c'est une place qui me convient totalement. Je préfère, à la limite, être outsider. Le fait d'être de chasser, on va dire, ça me va totalement.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Explique un peu un chasseur, ouais. Parce que donc, oui. Vous êtes deux, on va dire, en lice pour la qualification olympique. Vous êtes très proche en points.
Oui.
Et pour le moment, tu es deuxième.
C'est ça.
Donc, il reste encore quelques compétitions. Il reste un mois.
Oui.
Ce que tu me disais en off. Hein, je... voilà, je n'invente rien. pour te qualifier pour Paris 2024.
Ouais.
Donc, c'est une période qui est vraiment charnière et hyper importante en ce moment.
Oui, c'est la dernière ligne droite.
Tout à fait. Et donc, l'aspect mental aussi, ce que tu as abordé, est primordial.
C'est d'autant plus important. Ça va être la concrétisation. De toute façon, c'est la dernière ligne droite. Donc oui, c'est maintenant qu'il faut tout donner.
Mmh. Paris 2024, on en parle, donc tu cherches ta qualification. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour toi?
Qu'est-ce que ça représente? Bah, les Jeux 2024 à Paris, ce serait la concrétisation de toutes ces heures d'entraînement, de compétition, de... J'aime pas trop le mot sacrifice, mais en même temps, c'est ce qui se rapproche un petit peu le plus de ce que je ressens. Le fait, par exemple, d'être loin de ma famille aussi, depuis mes 13 ans. Je suis rentrée en pôle quand j'étais plutôt très jeune. À 13 ans, on ne connaît rien de la vie. Mmh. 23 ans, encore moins. Mais je veux dire, voilà, c'est des choses aussi qu'il faut prendre en compte. Le sport de haut niveau, ça demande énormément de sacrifices, d'entrain, d'envie, d'objectifs, évidemment. Ce serait vraiment la concrétisation de beaucoup de choses, du soutien de mes proches, de mes amis, de ma famille, et puis même de ma satisfaction à moi personnelle. Le fait d'accomplir quelque chose d'aussi grand, de tenter cette qualification et de l'avoir, ce serait une immense fierté.
Ouais.
Pour la petite Léonice de 13 ans.
On parlait d'objectifs juste avant.
Ouais.
Ça fait vraiment partie de tes objectifs globalement, ou c'est l'objectif?
Alors, c'est l'objectif 2024, mais après il y a 2028 aussi. Donc, c'est l'objectif le plus fort pour cette saison. Et après, évidemment, si on se projette plus loin, 2028, Los Angeles, évidemment.
Bien, t'es dans la projection. Je trouve que c'est pas forcément évident aussi, pour avoir discuté avec d'autres athlètes qui on met tellement de poids et tellement de choses sur cette Olympiade qui est en France, etc., que souvent on oublie qu'en fait les Jeux ne s'arrêtent pas à Paris.
Oui.
Pour la plupart, en tout cas des athlètes. Mais
c'est vrai que ça met une pression aussi mentale, parce que on n'a pas envie de les rater, on a envie de se qualifier déjà
sur
une. Mais on n'a pas envie de les rater quand on est sélectionné. Mmh. Donc, c'est une pression, sachant qu'en plus, c'est à Paris, 100 ans après. Donc, il y a vraiment tout cet aspect mental, médiatique, qui prend aussi le pas sur tout ça. Maintenant, je pense que c'est très important de se recentrer aussi sur soi. Évidemment que ça ne s'arrêtera pas à 2024, il y aura 2028, 2032, etc. Mais je pense que c'est important de se focaliser évidemment sur ces jeux-là, mais aussi de voir le après, l'ensuite. Enfin, l'ensuite, ça veut rien dire. Oh, la vache.
La suite.
La sieste n'est pas très loin. non, la suite aussi, c'est évidemment qu'il y a 2024, mais 2028, il ne faut pas l'oublier non plus.
Bien sûr. Et justement, comment tu trouves qu'est le traitement médiatique autour du badminton ?
Le traitement médiatique, alors je ne pense pas qu'il y ait une différence, comment dirais-je, homme-femme, dans le sens où on est représenté d'une manière, je pense, équitable, c'est-à-dire qu'on est sollicité de part et d'autre. Maintenant, c'est vrai que je pense que le badminton, en termes de résultats français, n'attire pas encore assez de personnes. Le public n'est pas encore assez présent. Mais aussi c'est parce que on manque encore de consistance dans nos résultats. On a beaucoup de perfs en ce moment, mais c'est vrai que c'est la consistance qui fera que on réussira à amener de plus en plus de gens à faire connaître le bad dans toute la France et même aux Antilles au final. Mais c'est vrai que je pense que c'est vraiment une question de consistance, de résultats. Qui fera que les gens s'intéresseront.
Tu ressens un manque d'intérêt de la part des gens sur le badminton ?
Oui, en soi. Enfin, manque d'intérêt, c'est quand même fort, mais c'est quand même une réalité. Puisque, là, je vais prendre en comparaison avec l'Asie, le bad, c'est quand même, je ne sais pas si je me trompe, mais c'est peut-être le sport national numéro 1 ou 2. En tout cas, c'est vraiment un des sports dominants, très dominants là-bas. Donc, c'est vrai que bah en France, c'est plutôt le foot, au final, qui prend toute la place. Donc, c'est vrai que le bad, on est très peu médiatisé. Et donc, on passe vraiment à travers les radars, quoi.
Et justement, si tu avais une raison de dire aux gens « Regardez le bad au jeu et ailleurs », d'ailleurs, hein, quand c'est disponible sur d'autres chaînes, qu'est-ce que tu dirais pour les convaincre de regarder et de s'intéresser ?
Déjà, je trouve que, petite parenthèse, mais je trouve que maintenant, avec les réels sur Instagram, c'est vraiment intuitif parce qu'au final, ça dure une minute, enfin voilà. Et je pense que les gens ne perçoivent pas à quel point c'est rapide.
Ouais.
Il faut qu'ils se déplacent pour voir. Là, on avait les IFB, par exemple, il y a encore 2 semaines, à l'Adidas Arena.
Et c'était
vraiment très impressionnant. Je pense que vraiment, les gens devraient se déplacer pour au moins une fois. Que ça leur plaise ou non par la suite, mais se déplacent pour voir à quel point le bad c'est rapide. Si je ne me trompe pas, le record, la vitesse du smash le plus rapide du monde, c'était 560 km/h ou wow. 580, je ne sais plus, mais voilà, c'est vraiment le record du monde, mais c'est totalement impressionnant, la vitesse du volant, un match, c'est comme un jeu d'échecs. Donc, la tactique, elle va varier du premier point à la fin du set. Et elle peut même changer entre les sets. Donc, c'est vrai que c'est très intéressant de regarder un match du début à la fin. Regarder un set, évidemment que c'est très bien. Mais je veux dire, je pense qu'on peut vraiment voir l'évolution d'une tactique, d'une joueuse. Ben des deux, évidemment, mais si on se focalise que sur une, on voit vraiment que la tactique, elle évolue du premier point au dernier. C'est extrêmement physique aussi. On dirait pas comme ça, mais au final, les points, ils peuvent durer, je sais même pas, en double dame, ça dépasse les 3, 4, 5 minutes,
ouais,
même
6, long, hein.
Des fois, si je ne m'abuse. Donc, c'est extrêmement coûteux, physique. Je pense que le public français a tout à gagner.
le message est passé. Et c'est
un
bien.
Petit peu, j'espère.
Ah, bah, complètement. Bah, écoute, moi, je suis absolument d'accord avec toi. Merci beaucoup, Léonie. Si on arrive déjà au bout des 20 minutes, ça passe très, très vite.
Très, très vite.
J'avais une autre question, mais tu as déjà répondu. C'est pour ça que je te l'ai posé pas aussi, savoir si tu avais une référence dans ta discipline.
Ah oui, d'accord.
Donc,
j'en ai plusieurs, mais.
Ah, vas-y, alors dis, parce que du coup, tu t'en as cité deux déjà. Mais...
Ah oui. Franchement, pour moi, c'est vraiment. Je parlais tout à l'heure de la technicité, donc c'est vraiment tight swing. Pour moi, cette femme, elle sait tout faire techniquement. Vraiment, quand je la regarde, je me dis, mais elle sait tout faire dans n'importe quelle position, si elle est en retard, elle contrôle, elle a ce qu'on appelle chez nous, c'est des feintes. Elle en a, mais partout, c'est vraiment, comment dirais-je, quand je la regarde, je me dis, mais comment elle fait? C'est tellement impressionnant. Donc, du point de vue de la technicité, vraiment, cette tight swinging, je trouve que c'est la meilleure. Et de l'autre côté, on a aussi Carolina Marin, qui a aussi une très bonne technique. Mais c'est son côté mental qui, pour moi, sort complètement du lot. Carolina Marin, c'est la championne olympique en simple dame 2016. Et pour moi, c'est la révélation européenne aussi, parce que elle domine encore le bad aussi asiatique, et je trouve que sa capacité mentale, elle est telle que elle arrive à faire d'énormes performances, mais aussi à les maintenir. Et c'est pour ça que je dis qu'elle casse aussi cette barrière du bad asiatique qui nous domine en Europe, etc.
Super. Ouais. Donc deux personnes à aller regarder.
Oui, c'est ça.
Et enfin, dernière question, puisque c'est un format où on met en lumière des jeunes, pas d'ailleurs, hein, mais championnes dans des disciplines qui sont peut-être un tout petit peu plus invisibilisées. Toi, si tu avais une sportive, une athlète à nous recommander, ou en tout cas à mettre en lumière, qui est-ce que tu citerais?
Eh ben, je pense que je citerai Rebecca Castodi, parce que déjà, elle fait partie de l'Oise 24.
Représente.
Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et aussi parce que elle est championne, elle est deux fois championne du monde. Et selon moi, elle n'a pas autant de médiatisation qu'elle devrait. Donc, je pense à elle.
Trop bien.
Voilà.
Qui a déjà été citée, si je ne m'abuse,
c'est possible,
dans
ouais.
un des formats 2024, je crois.
Ouais.
Donc, on va essayer de contacter Rebecca, parce que là, ça commence à trop faire, là. Super. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Léonice, pour ce petit moment.
Merci à toi.
Merci de nous avoir un peu ouvert les portes de ta carrière et de ta vie dans le bad. Et c'est un très beau sport, non? Et voilà, et arrêtez de croire que ce n'est qu'au collège qu'on fait du badminton.
C'est exactement ça.
Et que voilà.
Et c'est beaucoup plus physique qu'on le croit.
C'est beaucoup plus physique, c'est hyper intéressant. Et on commence un petit peu, je trouve, maintenant à voir aussi des vidéos, effectivement, sur les réseaux.
Ouais.
Sur certains beaux points, où, donc c'est intéressant. On sent qu'il y a peut-être un intérêt grandissant aussi, donc pourvu que ça dure et que ça aille dans ce sens-là.
J'espère bien.
Merci beaucoup, Léonice. Et puis, le M-word pour la qualification olympique.
Merci, c'est gentil.
À bientôt.
À bientôt.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Championne du Monde sur les plateformes d'écoute et à nous laisser commentaires et étoiles sur Apple Podcasts. Et rejoignez-nous sur Instagram pour plus de news et infos sur le sport au féminin. À bientôt!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.